Chapitre 17. Toute la ville en émoi cherchait l'explication de ce mystère. Le vol seul devait avoir été le mobile du crime, car Madame Dunois ne pouvait pas avoir d'ennemis. Sa touchante infirmité, sa bonté compatissante, l'avaient rendue chère à tous, et dans sa maison elle était adorée. Le mystère était dans ceci. Monique était-elle ou n'était-elle pas complice du ou des meurtriers? Car bientôt, on avait supposé toute une bande. Les uns disaient oui, d'autres disaient non. Après tout, sa complicité n'était pas nécessaire. La porte de l'escalier donnant sur le jardin pouvait fort bien n'avoir pas été fermée. Monsieur Dunois, appelé devant le juge d'instruction, avait déclaré l'avoir trouvé plus d'une fois close d'un simple loquet. Avec un couteau, rien de plus facile alors que de faire sauter le pin de la serrure. C'était un jeu d'enfant. Dès lors, Monique devenait blanche comme neige. Le malheur était que Monique n'avait pas l'air innocente. Elle répondait à une question sur 10 et pour le reste se renfermait dans un mutisme obstiné. Ce n'était pas là la conduite d'une jeune personne qui n'a rien à se reprocher. Ses rares réponses même n'étaient pas d'accord entre elles, et cela donnait à penser au monde. Monique suivait en cela un système parfaitement logique par rapport à elle-même, et parfaitement absurde relativement aux autres qui ne la croyaient coupable que de complicité. Elle racontait l'emploi de son temps jusqu'au départ de M. Dunois. À partir de ce moment, elle refusait de donner le moindre éclaircissement. Elle était montée chez elle quand M. Dunois lui avait dit de monter. Quelle heure était-il ? À cette question, aucune réponse. En effet, elle ne pouvait pas dire qu'à l'heure il était près de 11 heures. Elle s'entêtait à sauver, non elle-même, mais son maître, mue par la vague intuition que si on l'accusait d'avoir directement commis le meurtre, quelque chose arriverait qui ferait de ce maître, sinon le meurtrier, au moins un complice étrangement compromis. Depuis le moment où elle avait aperçu, fixé sur elle, débordant de tendresse triomphante, les yeux de marin en extase de la voir vivante après l'avoir crue morte, Monique vivait dans un désespoir obtus. Le remords n'avait point de place dans cette âme. Absorbée dans sa propre douleur, elle souffrait de savoir Madame Hortense morte, exactement comme si c'eût été la main d'un autre qui l'eût assassinée. Elle avait perdu une personne qu'elle aimait et cela lui faisait de la peine. Un autre sujet de chagrin était la pensée de Marin, rôdant éperdu autour de la prison, cherchant à la voir sans y parvenir. Il souffrait, elle en était sûre, et elle eût voulu n'importe à quel prix lui épargner cette souffrance. Quant à supposer qu'il pouvait la croire coupable, elle ne l'admettait pas une minute. On le lui dirait, pensait-elle, qui n'y croirait pas. Jamais une idée pareille n'entrera dans sa tête. C'est avec une sorte d'orgueil qu'elle caressait cette idée. Orgueil pour Marin, qui avait l'âme assez haute pour avoir cette confiance en elle. Orgueil pour elle-même, dont le passé rendait impossible la vraisemblance d'un crime commis par elle. Mais tout cela était très vague et très confus dans son esprit. Elle percevait les sensations physiques et les impressions morales comme le plongeur voit au travers des verres de son scaphandre. Tout était trouble autour d'elle avec de grandes lueurs soudaines, sanglantes comme un éclair d'orage qui ouvrait devant elle des abîmes infinis d'horreurs muettes. Ces lueurs étaient sinistres. Elle voyait Madame Hortense étendue sur la chaise longue, avec le mince filet de sang coulant sur son beau visage, ou bien c'était Marin au milieu de la foule hostile. Ces deux visions lui apparaissaient avec une intensité effroyable, Alors elle mettait ses mains sur ses yeux en criant « Oh non, je ne veux pas !» Et elle se roulait à terre avec des cris de rage impatiente. Elle voulait ne pas voir cela, mais elle le voulait tellement que pendant des heures, elle arrivait à ne plus y penser. Puis l'horreur la reprenait et la laissait briser pour des journées entières, inerte, incapable de se défendre contre les pensées redoutables si elles étaient venues. Mais elle venait rarement alors. Mais comme Onyx se sentait envahi par elle, c'était comme par un flot mortel contre lequel il est inutile de chercher à se défendre. Ses pensées la tenaient, non plus avec l'intensité furieuse des apparitions violentes, mais avec la sournoise méchanceté des tourments qui vous usent peu à peu, comme la lime use le fer. On avait d'abord cherché un amant à Monique. L'amant était le côté obligatoire de ce crime. On n'avait encore rien trouvé. Interrogée sur ce point, elle avait répondu « J'ai un fiancé, il était à la ferme des Landes, il est arrivé pour me voir emmener. » Là-dessus, on avait arrêté Marin. Où il avait prouvé le plus aisément du monde qu'il avait passé la nuit en chemin de fer. Un homme qui voyage la veille des rois d'embranchement en embranchement pendant 8 mortelles heures est facilement reconnu, ne fût-ce que par son billet. Marin, relâché sur le moment, avait demandé à voir Monique. On lui avait répondu qu'elle était au secret. Il était sorti triste et muet. En rentrant à son auberge, il avait pris son paquet, payé sa note, et il était allé loger ailleurs. Il ne pouvait pas rester dans cet endroit où il avait été arrêté. Le jour même, il écrivit à la ferme des Landes pour dire qu'un malheur de famille l'empêcherait de reprendre son service. Il avait emporté avec lui ses économies qu'il voulait employer à l'achat d'une montre d'or pour Monique. Avec sa sobriété, il avait de quoi vivre longtemps. Il ne songea point à se préoccuper d'autre chose que de l'heure présente. Celle-ci était assez douloureuse pour l'absorber tout entier. Un autre être souffrait indiciblement. C'était Hubert. Il avait perdu toute la joie, tout le charme de sa vie. À la minute où ses yeux s'étaient arrêtés sur le cadavre de Madame Hortense, il avait senti mourir en lui sa jeunesse et son bonheur. Ce garçon de 16 ans, formé par une culture intelligente, affiné par un sentiment profond et pur, était soudain devenu un homme vieilli par l'écrasant effondrement qui précipitait dans le gouffre de la mort l'idole de sa vie entière, celle qui, vivante, aurait soutenu, sans en être diminuée, les assauts du temps et de l'éloignement. Mais la douleur de sa perte était décuplée par cette fin tragique. Un besoin de vengeance dévorait l'âme d'Hubert, et le pauvre enfant se sentait déchiré par les griffes des passions mauvaises qui font tant souffrir les êtres bons et tendres. Hubert était convaincu d'une chose. Monsieur Dunois, trahi par lui-même ou par un autre, ou peut-être simplement menacé de se voir deviner, avait assassiné sa femme dans un moment de colère. Et le jeune homme restait pris entre deux alternatives redoutables, celle de laisser non venger le meurtre de sa bienfaitrice et celle de dénoncer Monsieur Dunois, qui avait aussi été, dans une mesure incontestable, son bienfaiteur. Hubert était cité comme témoin. Devant le juge d'instruction, il n'avait rien eu à dire d'important. Ni l'accusation ni la défense ne se doutaient qu'il pût apporter des lumières différentes de celles des autres employés habitant la maison. Les questions qui lui avaient été posées n'avait point amené de conflit entre sa conscience et ses perplexités. Mais à l'audience, il en serait autrement. Il ne pourrait toujours se taire. Qu'arriverait-il alors et que penserait-il de lui-même si un seul mot de sa bouche faisait passer M. Dunois du banc des témoins à celui des accusés? Madame Hortense avait été portée au cimetière, elle reposait désormais à côté de son petit garçon sous la grande pierre plate que peu de semaines auparavant, en mémoire de l'enfant mort, elle avait fait couvrir de roses blanches. M. Dunois avait mené le deuil en époux affligé. Les deux familles réunies l'avaient suivi. Quelques paroles émues, prononcées sur la tombe par un ami, avaient amené dans tous les yeux un regain de larmes, puis on s'était séparés, et les gens en noir avaient repris le chemin de leur demeure. M. Dunois rentrait chez lui lorsque, devant sa porte, il rencontra Hubert. Celui-ci, le cœur trop plein, ne pouvait plus attendre et voulait parler au veuf. Indigné par l'attitude de celui-ci durant la longue cérémonie, il éprouvait le besoin irrésistible de le regarder en face et de lui dire, à lui du moins, s'il ne devait jamais le dire à d'autres, toute l'horreur que lui inspirait l'hypocrite meurtrier. Machinalement, Dunois s'arrêta devant la porte des bureaux, fermée à l'occasion des funérailles. Il n'avait pas envie de rentrer dans son appartement, où tout lui rappelait Monique, qu'il voulait chasser de sa pensée le plus possible. Il tira sa clé de sa poche. Il en avait tout un trousseau de ces clés que depuis le jour du crime il ne pouvait plus toucher sans frémir, et il ouvrit la porte. Il ferait des chiffres pendant une heure, cela lui détendrait les nerfs. Au moment d'entrer, averti par on ne sait quoi, il se retourna et vit Hubert. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-il. Les yeux rougis et creusés, le visage tiré et vieilli du jeune homme lui déplaisait. Il était ennuyé que quelqu'un dans la maison eût l'air d'avoir plus de chagrin que lui. « Je voudrais vous parler, monsieur, » répondit Hubert. Les regards des deux hommes se rencontrèrent, et dans celui de son jeune employé, M. Dunois lut quelque chose qui lui fit passer un frisson sur les épaules. « Entrez ici, dit-il, nous y serons seuls. » Il referma la porte et se dirigea vers son fauteuil, situé dans une espèce de case vitrée d'où il dominait tout son personnel. Le grand rez-de-chaussée, vide et haut de plafond, était désert et sentait l'odeur de papier qu'on retrouve dans toutes les administrations. « Qu'est-ce que vous avez à me dire ?» fit M. Dunois quand il se fut assis. Hubert restait debout, le regardait sans répondre. Le banquier fut forcé de lever les yeux. « Pourquoi laissez-vous accuser cette fille ?» demanda le jeune homme. M. Dunois plongea jusqu'au fond des yeux de son interlocuteur et soudain il pâlit. Bah, « vous ne supposez pas, » dit-il avec un grand mouvement de colère intérieure, « vous ne vous imaginez pas, je pense que je... »« Mais vous savez bien que c'est vous qui l'avez tué, » fit Hubert avec violence. « Moi ?» s'écria le banquier, qui se dressa et leva la main au ciel. « Par mon honneur, par l'âme de la morte, je jure que ce n'est pas moi !» Ce cri lui était échappé dans toute la sincérité de son innocence matérielle. Mais il avait oublié qu'Hubert, son juge, n'était qu'un enfant et son subalterne. Il n'avait songé qu'à se défendre devant une accusation imméritée. « J'aurais donné ma tête, dit-il avec véhémence, pour que ce ne fût pas arrivé, pour que la pauvre femme vécût longtemps honorée et tranquille. Mais comment avez-vous pu penser que c'était moi ?»« C'était si naturel, » fit Hubert, convaincu et désarçonné. Il tombait du haut de son accusation et se sentait tout étourdi. Mais, reprit Monsieur Dunois, qui revenait à lui et qui sentait la colère le prendre, de quel droit vous êtes-vous permis de me soupçonner ?
Je vous ai vu embrasser Monique, répondit simplement le jeune homme. Je vous ai entendu lui donner rendez-vous pour la nuit.
Le banquier fut repris de terreur. Si ce témoin se mêlait de parler, non seulement lui, Dunois, devenait le héros d'un prodigieux scandale, mais Monique était perdue. Car pour peu qu'elle sentît la vérité devinée, elle parlerait et se perdrait elle-même. Elle l'avait dit, il la savait fille à tenir son serment. « Et vous avez conclu ?» dit M. Dunois, essayant de se raccrocher à quelque chose.
Bien que d'une façon ou d'une autre, la défunte avait eu connaissance de la vérité, qu'elle vous avait fait des reproches d'avoir suborné cette jeune fille sous le toit qui devait la protéger, et que vous l'avez frappée dans votre irritation.
Bon, c'était assez bien imaginé, répliqua M. Dunois avec une pointe de sarcasme. Il en voulait à ce garçon de lui dire si tranquillement de si rude vérité. Et maintenant, alors, qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense, monsieur, que je me suis trompé, répondit honnêtement le jeune homme.
M. Dunois garda le silence. « C'est tout ce que vous avez à me dire ?» fit-il au bout d'un instant.
« Non, monsieur. Après l'entretien que nous venons d'avoir, je sens que je ne puis plus rester ici. Je vous remercie des bontés que vous avez eues pour moi jusqu'à ce jour, et je vous prie de me permettre de quitter la maison. »«
Soit, » répondit le banquier.
Il se sentait mal à l'aise devant Hubert. Il aurait donné bien des choses pour le voir s'en aller tout de suite.
Il ne s'offusquait point en voyant que ce jeune homme qu'il avait si gravement offensé par ses soupçons ne lui offrait pas d'excuses. Après ce qu'Hubert avait vu, lui, Dunois, se sentait coupable à ses yeux. « Et qu'avez-vous intention de faire ? » demanda-t-il.
« La défunte voulait vous demander de me faire voyager, » répondit Hubert. « Je désire lui obéir. Seulement je ne vous demanderai pas, monsieur, de vous occuper de moi. Je vous demanderai simplement un certificat, et si l'on s'adresse à vous, des références telles que vous jugerez à propos de les donner. »«
C'est bien, » dit monsieur Dunois. « Quand voulez-vous nous quitter ?»
« Aujourd'hui même, si vous n'y voyez pas d'obstacle, je vais aller au Havre et de là en Amérique. C'est après-demain, jour de transatlantique. J'ai quelques économies. »«
Bon, je n'y vois pas d'obstacle. Vous aurez vos papiers demain. »
Hubert le salua et se dirigea vers la porte.
« Mais, » fit le banquier, « comment ferez-vous ? Vous serez cité comme témoin à l'audience. »«
Oh, je pense, monsieur, que vous pouvez me faire excuser. Je n'aurai rien de plus à révéler que les détails sans importance déjà donnés par moi. Cela dépend de vous, à ce que je crois. »«
Je m'en occuperai, » répondit M. Dunois.
Hubert s'éloignait, il le rappela encore une fois.
« Bon, nous nous séparons pour toujours, probablement, » dit-il. « Vous avez vécu plusieurs années dans notre maison. Ma femme avait de l'amitié pour vous. Allez, donnez-moi la main en me quittant. »
Hubert revint sur ses pas et tendit loyalement la main à son ancien maître. Celui-ci sentit qu'il n'était plus soupçonné. Quand il se vit seul, un immense allègement emplit son âme. « À présent, pensa-t-il, je suis sûr de m'en tirer, pourvu que Monique... » Rien n'était moins certain que le silence de Monique. Ce doute troubla les pensées du banquier tous les jours, à tous les instants. L'instruction fut longue car il fallait trouver le complice de Monique. C'est cela qui n'était pas commode. « Diable petite fille !» dit un jour un avocat général. « Oui, qui veut pas vous donner les moyens de lui couper le cou ?» réplique son substitut. Chapitre 18. La justice était fort perplexe. L'enquête la plus minutieuse ne révélait absolument rien contre Monique. Une seule chose restait mystérieuse. L'autopsie avait prouvé que l'assassinat de la victime avait été commis très peu de temps après son repas. Comment se fait-il que Monique, en admettant qu'elle fût en effet montée à sa chambre, sur le conseil de M. Dunois, se fût déshabillée et endormie assez vite pour ne pas entendre le bruit qu'avait dû produire le chenet en tombant sur le parquet, et avant cela les cris de surprise et d'effroi que n'avait pu manquer de pousser la malheureuse femme en voyant entrer un étranger. On avait remarqué aussi que la toilette de Monique, quand elle était descendue, était celle exactement qu'elle avait portée dans la journée, que rien n'y paraissait en désordre, en un mot, suivant l'expression de Toinette, qu'elle n'avait pas l'air de s'être couchée. Mais tout cela était en réalité peu de choses. On peut mettre machinalement à sa toilette peu ou beaucoup de soins, suivant son tempérament. À 18 ans, on peut s'endormir très profondément en quelques instants, et chacun sait que le sommeil de la jeunesse est profond. Si Monique avait répondu franchement à toutes les questions, nul n'eût attaché d'importance à de si menus détails. Une fois de plus, elle fut amenée dans le cabinet du juge d'instruction, et le triste interrogatoire, déjà subi, recommença encore. « Que faisiez-vous à 9 heures ? Qu'avez-vous entendu ?» Question dont Monique connaissait l'énervement et qui la conduisait presque toujours jusqu'à la syncope. « Je ne sais pas, répondait-elle, je ne me souviens pas. » Elle sentait les yeux du juge fixés sur elle. Elle savait qu'une réponse imprudente la perdrait et qu'elle devait aux efforts faits par son maître pour la sauver de ne pas le perdre avec elle. Elle se raidissait de toutes ses forces pour ne pas crier à pleine voix « Oui, c'est moi qui l'ai tué, allez ne me demander plus rien !» À une dernière question, la même retournée sous une autre face, Monique perdit enfin patience. « Monsieur, dit-elle au juge d'instruction, vous n'avez pas le droit de me tourmenter comme cela. Je vous ai répondu tout ce que j'avais à répondre, mais tuez-moi si vous voulez, mais je ne dirai plus un mot. » Elle se laissa retomber sur sa chaise avec un tel air de découragement et de lassitude que le magistrat eut pitié d'elle. Le médecin avait constaté chez la jeune fille une susceptibilité nerveuse excessive. L'effroi qu'elle avait ressenti pouvait avoir partiellement troublé ses facultés. À coup sûr, il lui avait ôté la lucidité nécessaire pour se défendre. D'ordinaire, les coupables comprennent mieux leurs intérêts. Monique fut emmenée, et l'instant d'après, M. Dunois entra. Vêtu de noir, extrêmement correct, d'une pâleur de cire, il avait vieilli très rapidement. Sa tenue était celle du beau M. Dunois, mais des rides soudainement creusées sur son visage et un changement étrange dans le timbre de sa voix trahissaient un homme éprouvé par de cruelles angoisses. « Vous êtes bien certain, lui dit le juge, que cette jeune fille n'avait aucune animosité contre votre femme. » M. Dunois fit un geste de dénégation courtoise et de ses lèvres blanches sortit le mot « aucune ».« Croyez-vous qu'elle ait pu agir par cupidité en introduisant un complice ?
Oh, je l'en crois incapable, répondit-il avec une chaleur bien différente.
Lui connaissez-vous un caractère violent et emporté, capable d'un excès dans un mouvement de colère ?
Monsieur Dunois éprouva l'impression d'un homme qui voit la foudre tomber devant lui sans être atteint, mais qui redoute le coup qui va suivre.
« Je ne lui ai jamais vu montrer de colère, » répondit-il.
« Vous n'avez pas eu l'idée qu'à la suite de quelques reproches exprimés par sa maîtresse, Monique Briquet aurait pu se trouver excitée au point de la frapper et simuler ensuite un vol pour détourner les soupçons ?»
Le juge regardait le témoin d'un air perplexe. L'idée était invraisemblable, il fallait en convenir, mais ces scrutateurs de conscience voient journellement des choses si extraordinaires.
« Non, je n'ai pas eu cette pensée, » répondit le banquier. Il entendait le son de sa propre voix comme au travers d'une épaisse paroi qui l'assourdissait. Il eût voulu parler plus haut et ne pas trahir d'émotion, mais il se semblait à lui-même un homme qui se noie.
Et maintenant que je voulais suggérer cette explication, vous paraît improbable ?
Continua le magistrat. Monsieur Dunois voyait osciller devant lui la fenêtre et le bureau, qui prenaient fantastiquement la place l'un de l'autre. Il fit un suprême effort et reconquit sa présence d'esprit.
« Matériellement, dit-il, je ne crois pas que Monique eût eu la force de porter un coup capable de donner la mort. Elle est si menue, si petite, si frêle. Le chenet qui a servi au crime est très lourd, et les mains de cette jeune personne sont celles d'une enfant. » Moralement, ainsi que je vous l'ai déjà dit, elle était très attachée à ma femme. Je pourrais même dire qu'elle l'aimait passionnément. Toute la maison le savait et on en avait raillé plus d'une fois.
Le juge garda le silence pendant un temps qui parut long à M. Dunois, dont une sueur froide baignait les cheveux.
Je ne vois aucun motif de détenir plus longtemps la prévenue, dit enfin le magistrat. Les charges contre elle se réduisent à néant. Ce crime restera probablement au nombre de ceux dont l'auteur est à jamais impuni. Nous allons mettre cette malheureuse en liberté.
Lorsque Monique se vit amenée une fois de plus dans le cabinet qui pour elle était un lieu de torture, elle jeta autour d'elle un regard désespéré. Faudrait-il encore subir les mêmes interrogations insidieuses, perfides, qui la mettaient hors d'elle-même, tant elle se devait garder prudemment ? Si elle avait voulu mentir, c'eût été plus facile, mais elle ne mentait pas. Elle obliquait seulement, avec la finasserie normande qu'elle avait dans le sang, et ainsi ne croyait pas s'amoindrir.
« Vous êtes libre, » lui dit le magistrat.
Il avait déjà prononcé quelques paroles, mais elle ne les avait pas entendues. Ces mots la frappèrent comme un courant d'air vif frappe un être longtemps refermé. La première impression fut une souffrance intolérable.
« On ne me fera rien ?»
demanda-t-elle en regardant le juge d'un air étonné. Son petit visage s'était cruellement aminci pendant la réclusion, ses yeux étaient cernés, sa bouche paraissait plus grande et plus sévère. Seul son corps fluet semblait plus jeune et plus frêle que jamais.
« On ne vous fera rien, » répondit le juge, « vous pouvez vous en aller. »
Elle resta interdite. En la regardant, il pensa qu'en vérité, elle n'aurait pas eu la force de soulever un lourd chenet de fer.
« Mais m'en aller où ? » dit-elle.
« Où vous voudrez ? » Elle fit un geste las.
« Je vous remercie, monsieur, » dit-elle.
L'homme qui, par respect pour la loi, l'avait fait tant souffrir, eut pitié de ce pauvre être abandonné. « Est-ce que monsieur Dunois est encore là ? » demanda-t-il. Monsieur Dunois s'était arrêté dans un corridor, bien malgré lui, pour causer avec une de ces innombrables connaissances que l'on rencontre inévitablement au moment où l'on souhaiterait le plus d'être seul. On le trouva, on le ramena, et il se trouva en face de Monique pour la première fois depuis la redoutable nuit.
« Cet enfant n'a personne ici de qui se recommander, monsieur, » dit le magistrat. « Pouvez-vous vous intéresser à elle ?»«
Oh, certainement, » répondit monsieur Dunois. Ces deux êtres, entre lesquels il y avait un crime, n'osaient affronter les yeux l'un de l'autre et pourtant ils devaient feindre de se regarder.
« Je ne veux pas retourner là-bas, » dit Monique.
« Je le comprends, » répondit son maître, « mais vous n'avez ni argent, ni... »«
Je ne veux pas d'argent, » fit-elle en détournant la tête.
« Vous avez droit au moins à vos gages. »«
Je n'en veux pas, je n'y toucherai pas. »« Je n'emporterai rien de cette maison-là. »
Les deux hommes s'entre-regardèrent avec des impressions bien différentes, mais faites cependant d'une même pitié.
« Et son fiancé ?» dit tout à coup le magistrat. « Elle avait un fiancé, où est-il ? »
« Il est tous les jours dans la salle d'en bas, » répondit le greffier. « Il doit y être encore.
Qu'on aille le chercher. »
Monique et M. Dunois étaient restés immobiles. Celui-ci n'osait s'en aller, de peur d'avoir l'air trop pressé d'abandonner la jeune fille, et pourtant il eût donné une grosse part de sa fortune pour être hors de cette présence intolérable. Marin entra. Monique frissonna, mais ne fit aucun mouvement.
« C'est fini ? » dit-il. « Allons, viens-t'en. »
Il lui prit la main pour l'entraîner. Elle se dégagea avec un nouveau frisson si violent que ses dents s'entrechoquèrent.
« Mais viens donc !» répéta Marin en reprenant possession de la main glacée de Monique. « Il est grand temps de nous en aller. »
Monsieur Dunois fit un pas en avant et s'adressa à Martin.
« Monique refuse de prendre l'argent qui lui est dû, » dit-il. « Je comprends qu'elle ait quelques répugnances à rien emporter d'une maison. »
Il s'arrêta. Cette odieuse comédie lui causait autant de répugnance qu'à sa victime. « Mais, » reprit-il en se dominant, « ce qui est à elle est bien à elle, cependant, et je vous prie, monsieur, de lui faire comprendre. »
« Je vous remercie pour elle, monsieur, » interrompit brusquement Marin, « mais nous n'avons besoin de rien. Je l'emmène et je l'épouse. Après ce qui s'est passé, sa mère ne fera plus la méchante. Elle doit assez regretter d'avoir laissé partir sa fille. Serviteur, messieurs, viens-t'en, Monique. »
Il la tenait toujours par la main. Elle le suivit docilement, sans hâte, comme un chien qui se laisse un peu traîner au bout de sa laisse. Ils sortirent, et quittant les rues bruyantes, ils s'enfoncèrent dans les ruelles obscures qui peu à peu se faisaient désertes. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent enfin tout au bout de la ville, dans l'auberge pauvre et proprette où Marin avait élu domicile.
« Veux-tu manger ?» dit-il, quand ils en eurent franchi le seuil.
« Non, je n'ai pas faim, » répondit laconiquement la jeune fille.
« Alors, prenons nos hardes et partons. Où sont tes effets ?
Là-bas ? Murmura Monique. Peux-tu écrire quand on les envoie ? Allons-nous-en. Nous serons demain soir chez nous.
Et il lui parlait en maître avec une sorte de brusquerie faite pour cacher le désir ardent qu'il avait de la prendre dans ses bras et de pleurer sur elle comme une mère pleure sur son petit enfant malade. Il ramassa dans un mouchoir le peu d'effet qu'il avait apporté la veille des rois et qui s'était bien usé dans un usage constant. Il prit son bâton d'épine, paya sa note et sortit. Monique n'avait pas dit un mot. Elle le suivit.
Chapitre 19. Quand ils eurent fait quelques pas vers la gare, elle l'arrêta brusquement.
« Allons du côté de l'eau, » dit Monique.
« Pourquoi ?»
fit Marin étonné.
« Je veux te parler. Oh, nous aurons bien le temps. Non, non, je veux te parler tout de suite. Mais nous manquons le train.
Il y en a d'autres. Je te dis que je veux te parler. Je ne m'en irai pas d'ici sans t'avoir dit ce que j'ai à te dire. »
Elle regardait Marin bien en face, maintenant, les yeux brillants et mauvais.
Le jeune homme sentit passer entre eux le vent froid du malheur. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » dit-il d'une voix basse. Et dans cet « encore », on sentait la fatigue d'un être qui avait déjà souffert au-delà de ses forces.
« Il y a que je veux causer avec toi. Il me semble, depuis le temps que nous nous sommes vus, que nous devons avoir des choses à nous dire. »
Sans répondre, Marin retourna sur ses pas et prit une ruelle obscure qui descendait vers la Seine. Le jour baissait, une nuit claire de février allait tomber sur les rives sombres. Rouen s'étageait, déjà piqué de points lumineux, sur la colline que traverse le chemin de fer, et sur l'autre rivage, tout plat, le faubourg Saint-Sever étendait ses maisons basses, ses fabriques enfumées couvertes d'une vapeur lourde et grisâtre. Ils atteignirent le bord du fleuve, à l'un de ces endroits qu'on trouve aux abords des grandes villes, où la campagne se mêle à la cité, de façon qu'on ne sache trop si l'on est tout près ou très loin des hommes. Des bâtiments inhabités bordaient le chemin de halage, où personne ne passait jamais depuis que les remorqueurs à vapeur avaient remplacé les chevaux en longue file, qui donnaient jadis tant de vie aux rives des fleuves. Quelques pierres dégrossies éparses çà et là témoignaient que jadis on avait voulu bâtir quelque chose en cet endroit. Qui s'inquiète de l'histoire de ces pierres ? On en trouve partout, dans un terrain vague, soudain rencontré au milieu de la ville la plus florissante, on ne sait par quel étrange hasard, dans le lieu le plus écarté, à une telle distance de tout endroit habité, qu'on se demande comment elles sont jamais pu arriver là. Elles sont moussues, rongées par l'humidité, noircies par le temps, à demi enterrées par l'envahissement croissant de l'humus, qui dévore tout ce que l'homme ne lui dispute pas avec acharnement. Qu'ont-elles été, quelles mains les a taillées, à quoi étaient-elles destinées, nul ne le sait plus. Ceux qui les ont fait transporter là dorment depuis longtemps dans la tombe avec leurs rêves, et personne ne pourra jamais dire ce qu'ont représenté ces blocs muets, semblables à certaines existences stériles, inaperçues, douloureuses épaves de la vie morale, comme les pierres sont les épaves de fortunes anéanties. Marin sentait vaguement quelque chose de semblable lorsqu'il indiqua à Monique une de ces blocs de calcaire pour s'y asseoir. Sans s'en rendre compte, il avait dans l'âme toute la tristesse des dévouements stériles
et le lieu lui paraissait d'accord avec la disposition de son esprit. Au fond, il ressentait une grande humiliation, mêlée d'une sourde colère, contre les événements qui étaient venus troubler son existence sans joie, mais fière et silencieuse. L'humiliation provenait de la tâche infligée à Monique par la prison, par l'accusation, par la honte publique. L'attirail de la justice, qui stimule la perversité vantarde des coquins de profession, inspire aux gens honnêtes, aux habitants des campagnes surtout, une terreur où domine une sorte de dégoût. Il avait fallu que Marin aimât singulièrement sa fiancée pour lui garder sa foi en présence d'un tel esclandre. Il s'était demandé plus d'une fois ce que penseraient les gens de Champsay si un hasard leur apprenait jamais la vérité, et sa fierté ombrageuse lui avait répondu qu'en ce cas, il y aurait des coups échangés, des coups pas pour sauver les apparences, mais de ces coups qui laissent un gars 3 mois dans son lit. À la pensée que quelqu'un pouvait là-bas montrer Monique du doigt en l'appelant « revenu de prison », Marin se sentait capable de cogner la tête de celui-là contre un mur jusqu'à ce que la cervelle en jaillît. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Répéta-t-il de cette voix dure qu'il avait prise depuis qu'il avait appris la souffrance de la honte. Monique n'eût peut-être pas su lui répondre s'il l'avait traitée avec douceur, mais en voyant se dresser devant elle, pour la première fois, l'autorité du mari, sans aucune forme de déguisement, elle sentit son orgueil se soulever tout d'une pièce. « Il y a, répondit-elle, que je ne veux pas retourner à Champsay sans t'avoir dit toute la vérité. Et quand tu la sauras, si ça te déplaît, tu seras libre de ne pas m'emmener. » Marin regarda autour de lui comme si le monde sombrait et s'il était le dernier passager de ce navire. « Tu as fait quelque chose de mal ?» dit-il d'une voix tonnante. « Oui, » répondit-elle en le regardant, les bras croisés sur la poitrine. « Tu l'as pas volé, toujours » fit-il avec un inexplicable dégoût. « Oh non !» Elle lui jeta ce mot à la figure comme une insulte. Osait-il la soupçonner d'une bassesse semblable? Alors, fit Marin, sévère comme un juge, j'ai tué ma maîtresse, répondit-elle sans cesser de le regarder en face. Le silence était autour d'eux. Le vent qui frôlait les herbes et la Seine qui baignait les rives entendirent seul l'aveu. « Toi ?» dit le jeune homme confondu. « Toi, Monique ? Elle t'avait donc insulté ?» Elle comprit que si la victime lui avait fait quelque offense, Marin absoudrait le crime car il était capable de le commettre. Mais elle ne voulait plus mentir. Le dégoût de ses tergiversations devant le juge lui donnait la nausée. Elle en avait assez, elle voulait y voir clair devant elle et ne plus rien cacher. « Écoute, » dit-elle en se levant. Par une ancienne habitude, elle avait roulé ses mains dans son tablier et elle avait l'air toute menue, frêle et jeunette, comme jadis auprès du buisson de roses blanches qui couronnait une tombe. « Écoute, quand je suis parti, je t'aimais bien, je te le jure, mais je ne pensais pas à un autre qu'à toi. Mais quand j'ai été à Rouen, il y en a eu un, quelqu'un qui m'aimait. Oh, pas comme toi du tout, ça n'avait aucun rapport. Il m'aimait, oh, je ne peux pas t'expliquer comment, mais ça a été plus fort que moi. J'ai jamais voulu faire le mal et je l'ai fait. Il ne m'a jamais forcé à rien. C'est moi qui suis allé de ma propre volonté, mais je ne suis plus une honnête fille, voilà ce que j'avais à te dire. Marin, les lèvres serrées, avait écouté en silence. C'est maintenant qu'il se trouvait seul au milieu de l'univers effondré. « Je n'ai pas bien compris, dit-il. Cet homme, tu l'aimes donc ?»« Je le déteste !» fit Monique avec un retour de son ancienne véhémence. « Je comprends pas, » répliqua Marin en laissant tomber à ses côtés ses mains ouvertes. Monique fit un geste d'impatience. Sa main droite sortit de son tablier et se dressa vers le ciel qui commençait à s'étoiler. Tout à l'heure, le firmament serait en fête, mais sur la terre, tout était triste, triste comme la chambre d'un homme qui va mourir. « Mais comprends, » dit-elle avec le ton du commandement, « je ne puis pas te dire autre chose que la vérité pourtant. Cet homme, je le déteste. Je le méprise, je le voudrais mort avec une corde au cou, fit-elle en montrant le fleuve d'un noir d'encre. Mais je ne sais pas comment cela se fait. C'était plus fort que moi. Quand il me regardait, je ne savais plus ce que je voulais. Il m'a parlé, il m'a embrassé, et c'est moi qui suis restée avec lui. Il ne m'a contrainte en rien. Tais-toi! S'écria Marin en mettant ses mains sur ses oreilles. « Tais-toi !» Le grand silence recommença sur la rive morne et déserte. Monique, obéissante, avait remis ses mains sous son tablier et attendait patiemment. Maintenant, elle se sentait plus libre, plus fière, plus noble. Elle pouvait relever la tête et regarder le monde en face. L'aveu l'avait purifiée. Elle ne pensait pas à la souffrance de Marin. Elle ne songeait qu'à la joie d'être délivrée de son fardeau. « Tu es allée avec lui ?» demanda Marin. « De bonne volonté ?»« Oui. »« Et moi ?» s'écria le malheureux. « Et moi ? Tu n'as pas pensé au chagrin que ça me ferait ?» Quand je le regardais, il n'y avait plus personne au monde, répondit-elle. Avec ses yeux, il me faisait faire ce qu'il voulait. Mais ça n'empêche pas que je le détestais et que je le déteste bien plus qu'avant. Pour sonder cet abîme d'âme et de chair humaine, il eût fallu être un plus grand philosophe que Marin Bonamy. Il resta anéanti sous le coup épouvantable qui détruisait sa vie. Monique le regardait d'un œil presque indifférent, avec une sorte d'impatience. Pourquoi s'en prenait-il à elle? Ne devait-il pas comprendre combien elle avait atrocement souffert pour en arriver à lui parler si tranquillement de ces choses monstrueuses? Au bout d'un instant, Marin releva la tête. « C'est donc lui qui t'a dit de tuer cette malheureuse femme ?» dit-il, perdu dans un dédale de perplexités effroyables. Monique haussa les épaules avec une sorte de colère. « Mais non » répliqua-t-elle. « C'est moi qui l'ai tuée, parce qu'elle avait découvert la vérité et qu'elle me faisait des reproches. » Si elle m'avait grondé, ça m'aurait fait moins de mal. Mais elle me parlait doucement et elle pleurait. C'est ce que j'ai pas pu supporter. C'était donc ton maître, s'écria Marin, dont l'esprit s'illumina soudain. Ah, canaille, il t'offrait de l'argent tantôt. Je ne l'ai pas pris, tu le sais bien, fit Monique.
Ah, je le tuerai, celui-là, dit le jeune homme en serrant les dents. En voilà un du moins qui l'aura mérité.
Je te le défends, fit Monique de sa voix calme.
Bon, c'est ce que nous verrons, mais tu l'aimes donc bien que tu ne veux pas qu'on y touche.
Tu ne comprends pas, répondit la jeune fille avec un accent de commisération. Si je l'aimais, je n'avais pas besoin de te rien dire. Mais si tu lui fais du mal, tout le monde saura que j'ai été avec lui, et je serai forcé de dire que c'est moi qui ai tué Madame Hortense. Alors ma mère en mourra le chagrin, et les gens le chamseillent. Tu sais bien ce qu'ils diront.
Oh, les gens le chamseillent, fit Marin avec un geste d'indifférence dédaigneuse. Tu penses bien que ce n'est pas ça qui m'empêchera de le tuer.
Si tu le touches seulement du bout du doigt, dit Monique sans hésiter, je me jette là-dedans tout de suite.
Mais tu l'aimes, avoue donc que tu l'aimes.
Mais combien de fois faudra-t-il te dire que je le hais? Mais tu veux pas m'entendre. Il ne te devait rien, cet homme. Il ne t'avait rien promis. C'est moi qui t'avais promis et c'est moi qui t'ai manqué de parole. Tue-moi si tu veux. Au fond, je crois que c'est ce qu'il y aurait de mieux. Mais ne le tue pas, lui, car tu commettrais un crime, et un crime, vois-tu, marin. C'est lourd à porter, oh, bien lourd, et l'on ne dort plus après cela. La nuit, on voit des choses. Ne fais pas de crime, marin, je t'en supplie. Je ne pourrais pas vivre si je savais que tu souffres ce que j'ai enduré. Son orgueil était vaincu. Elle s'était jetée à genoux devant l'homme qu'elle avait trahi, et toujours sans larmes, elle lui serrait les mains d'une étreinte dont la force croissait d'instant en instant. Ses petites mains fines tenaient celles de Marin comme des pinces, et lui engourdissaient les doigts qu'il ne pouvait retirer. Un vent humide passa, versant sur leurs visages enfiévrés une odeur délicieuse de fleurs précoces, de jeunes pousses hâtives, de terre remuée par les labours de printemps. Le cœur de Marin se détendit tout à coup. « Pauvre, pauvre petite, dit-il, tu as souffert tout cela. » C'est pire que la mort de souffrir pendant des jours et des jours, toujours avec la même idée. Ce que ce doit être quand on a fait du mal, oh, je n'ose pas y penser. Pauvre, pauvre petite. Les mains de Monique avaient tout à coup lâché les siennes. Elle s'était laissée aller, agenouillée sur ses talons, et le regardait avec une sorte d'égarement. « Ce n'est pas ta faute, Monique, » dit Marin, sans s'apercevoir que son visage était inondé de pleurs et qu'il buvait ses larmes en parlant. « Ce n'est pas ta faute du tout. C'est la nôtre, c'est celle de ta mère qui croyait bien faire la pauvre femme. C'est la mienne qui est refusée d'aller comme domestique avec toi. Ce n'est pas ta faute, non, non, si jeune, si frêle, une enfant. » Faudrait-il être injuste pour lui reprocher quelque chose? C'est lui qui tenait les mains de Monique maintenant. Penché sur elle, il la regardait avec une indicible pitié, comme un père qui pardonne à son enfant malade. Elle écoutait, la tête un peu penchée, comme elle avait écouté les cloches cette veille de Noël. Et tout à coup, elle les sentit teinter dans ses oreilles et l'envahir de leur irrépressible torrent d'harmonie. Elle ne pouvait plus résister cette fois. Le bruit l'entraînait, la roulait dans ses ondes, la noyait. « Oh, ne me parle pas comme ça !» fit-elle d'une voix mourante. Ça me fait trop de bien, ça me fait trop de mal. Je ne vois plus rien.
Il se leva, la prit dans ses bras et l'enleva comme s'il eût été une de ces légères liasses de fougères qu'il emportait jadis au bout de sa fourche, et sous son cher fardeau, il regagna les quais dans la ville. Une voiture se trouvait à la première station. Il y déposa Monique, s'assit auprès d'elle et se fit conduire à la gare. La jeune fille n'avait pas complètement perdu connaissance. De temps en temps, elle cherchait les mains de marin ou un bout de son vêtement, et elle le serrait affectueusement comme pour s'assurer qu'il était bien là. En arrivant au chemin de fer, elle put marcher. Le train qui les emmenait était signalé, et quelques instants après, ils sortaient du tunnel qui passe sous la montagne Sainte-Catherine, et Rouen illuminé leur apparut dans sa beauté mystérieuse. Quelques légères secousses, le bruit du passage du train sur un pont, et voici la nuit noire sur les champs labourés qui recevront demain les semailles de mars. Voici la vie saine de la campagne qui les reprend et les environne. Les haies noires se découpent sur le ciel étoilé qui semble clair. On devine dans des replis obscurs des vallons où sont des fermes. Les villes sont loin. Ils les ont quittées, ces malheureux qui étaient des heureux avant de les connaître. Ils retournent au village. Le vent leur apporte de très loin une odeur marine qui les fait pâlir. Ils ne se parlent pas. Dans le wagon désert, ils gardent le silence. Mais à la vive lumière de la lampe fixée au plafond, ils se regardent pendant la longue nuit. Ils se regardent dans les yeux. Il n'y a entre eux ni doute ni mystère, il n'y a que d'immenses et irrémédiables peines. Mais à mesure qu'ils avancent dans leur voyage, ils sentent que la pitié, l'amour et le pardon sont plus grands que tous les crimes, puisqu'ils peuvent tout consoler et tout absoudre.